Le règne animal, le nouveau film événement de Thomas Caillet.
C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe.
Un choc absolu pour le Parisien. Un coup d'éclat ahurissant pour Télérama. Absolument bluffant pour Première.
Il y a des survivants, j'en ai vu hier soir.
Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos. Le règne animal, actuellement au cinéma.
Bonjour, je vous propose une émission qui avait été diffusée pour la première fois le samedi 15 octobre 2022 et qui s'intitulait « New York 1940-1947, un exil français », mon invité étant Emmanuel Loyer.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique, est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Oui, mais il y avait la Sareff, il y avait Lévi-Strauss, il y avait Dupuis, Robert Lebel, et beaucoup des jeunes, comme par exemple Charles Duhitz, qui était à l'université, qui était à peine étudiant. Et tout le monde se représentait comme un espèce de Rimbaud, de nouveau Rimbaud. C'était très curieux, la vie de l'exil, comme ça, où on se voit tous les jours, au même endroit à manger, et qu'on travaille au même endroit.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Les douleurs de l'exil sont de toutes les époques. Ovide, assigné par Auguste au bord de la mer Noire à l'aube de notre ère, les avait magnifiquement chantés. Notre temps multiplie le nombre de nos semblables qui sont voués par leur destin au plus sombre de cette épreuve. J'ai donc souhaité braquer notre attention sur un cas spécifique que nous propose l'histoire récente, celui des Français que la défaite de 1940, suivie du régime de Vichy, a conduit à se réfugier aux États-Unis et plus spécifiquement à New York, jusqu'à la libération de leur patrie qui y fit rentrer la plupart. Emmanuel Loyer, professeur des universités à Sciences Po, s'était attaché naguère à ce sujet avec brio et sagacité, et je l'ai invité à y revenir ce matin à notre profit. Bien sûr, chaque vague d'hommes et de femmes condamnés à un exil collectif par des déchirements intestins propres à leur nation connaît des chagrins spécifiques selon l'époque et selon les circonstances. Nous allons les évoquer pour le cas qui va nous occuper, dans l'ordre de la politique naturellement, au cœur de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de la littérature, de la science et des arts. Mais non sans évoquer, chemin faisant, certaines permanences qui renvoient à d'autres époques. Le mal du pays, comme dit le parler populaire, est ambivalent. La nostalgie peut désarmer les courages et la volonté, ou se montrer au contraire féconde en fouettant le goût de combattre, au moins de loin, par la parole et par l'écrit. Il s'agit alors de compenser la distance géographique par la quête d'autres proximités intellectuelles et affectives. On ajoutera que la constitution de petites communautés d'exilés va rarement sans des querelles qui sont d'autant plus féroces qu'elles se déploient en vase clos. Elles ajoutent souvent leur amertume à la cruauté du déracinement. Et pour commencer, je vous propose, vue d'en face, un éditorial de Philippe Henriot, le fameux ministre de l'information de Vichy, qui parlait à la radio régulièrement, tous les jours, qui a été ensuite, comme nous savons, abattu par la résistance. Philippe Henriot, qui consacre ce jour-là son émission aux Français exilés. C'est une archive qui remonte au 18 avril 1944.
Parmi les Français qui ont cherché hors de France un refuge pour leur patriotisme, leurs personnes et leurs biens, et qui de loin nous adressent leurs conseils, leurs injures et leurs critiques, on trouve vraiment une extraordinaire variété d'échantillons. Il y a d'abord la foule des Juifs qui, d'André Mauroy à Henri Bernstein, en passant par Henri Torres, arpente toute la gamme des sentiments littéraires, de la mélancolie à l'imprécation furieuse. Il y a les journalistes à la Pertinax, les prédicants à la Maritain, les petits hommes qui traînent péniblement un nom célèbre comme Philippe Barrès, les romanciers qui mettent l'actualité en feuilleton à goût américain comme Jules Romain, puis la tourbe des obscurs, des crottés, des sans-grades qui végètent sur le pavé de l'exil en remâchant leur rancœur et en spéculant sur l'heure où on leur permettra, voyageurs sans bagages, de revenir assouvir chez nous leur vengeance d'idéologues, d'apatrides ou de traîtres. Et je finis par me demander si leur violence même ne naît pas de l'irritation où les jette cette constatation. L'insistance avec laquelle ils clament sur les ondes, c'est nous et nous seuls qui représentons la France et qui pouvons parler en son nom, trahit leur dépit et leur impuissance. Ils se font décerner des certificats de nationalité par des étrangers. Ils s'adressent à la presse anglaise, à la presse américaine et leur demandent de constater, de vérifier, d'attester qu'ils sont bien français, qu'ils sont bien les seuls français. Et quand leur propagande a été poursuivie avec un zèle digne d'un meilleur sort, un monsieur Cordell-Hull leur dit dédaigneusement, eh bien non, à y regarder de près, je n'ai pas l'impression que vous soyez la France. Et même si nous vous aidons parce que vous nous servez, nous ne pouvons pas vous reconnaître comme tel. Voilà le châtiment de l'émigration. Voilà ce qui attend inévitablement ceux qui, comme l'écrivait Lascaz dans le préambule du mémorial de Sainte-Hélène, connaissent leur horrible situation de combattre leur patrie sous des bannières étrangères. Nous croyons plus que jamais, après ces aveux que leur détresse mal déguisée arrache aux exilés volontaires, que la France vraie se trouve sur son sol, enracinée en lui, serrée autour de ses chefs, ferme et loyale dans l'épreuve, une France dont l'esprit continue de palpiter, l'âme de vibrer, le cœur de battre, malgré les chaînes qui chargent son corps et les blessures qui lui sont portées. La France est avec ceux qui ont subi les coups avec elle. Elle ne peut être avec ceux qui les lui portent. Elle est avec ceux qui sonnent le rassemblement des énergies. Elle ne peut pas être avec ceux qui la conduisent à la guerre civile. Elle est avec ceux qui voudraient rapprocher ses enfants. Elle ne peut pas être avec ceux qui ont aidé à lui enlever tous ceux qu'on lui avait laissés.
Emmanuel Loyer, bonjour.
Bonjour.
Il me semble que cette philippique marquée par la haine et par le talent nous dit beaucoup, vu d'en face, sur cette communauté française à New York dont nous allons parler ce matin.
Oui, tout à fait. Elle explique d'ailleurs pourquoi c'est un épisode qui est resté longtemps relativement méconnu. Non seulement parce que ce n'est pas un exil massif, mais aussi en raison de ce modèle, stigmatisant de l'exil porté par l'histoire française depuis la Révolution.
On n'apporte pas la patrie à la semelle de ses souliers, c'est Danton.
Exactement. Et on voit bien que là, il y a tout un prisme, en fait, de l'histoire révolutionnaire et post-révolutionnaire. Le syndrome de Koblenz plane sur ces exilés français des années 40.
Koblenz, c'est-à-dire la ville principale où se retrouvaient les émigrés qui avaient quitté la France après la Révolution.
Oui, alors
la Révolution.
Ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est là une des grandes voies Henriot de l'extrême droite française collaborationniste qui, finalement, de façon assez paradoxale, s'empare d'un topos, finalement, de la tradition républicaine. Enfin, en tout cas, une certaine tradition considère les exilés, quelque part, c'est exactement ce qu'il dit, entre les fuyards et les traîtres.
C'est d'ailleurs pourquoi un certain nombre de leaders juifs ont refusé de quitter, pour leur malheur, le territoire. En 1940, je pense à Léon Blum ou à Georges Mandel.
Oui, tout à fait. De toute façon, la décision de quitter la France n'était jamais faite de gaieté de cœur et d'ailleurs était également compliquée à mettre en place. Mais c'est vrai que cette façon de considérer l'exil a d'ailleurs pesé aussi ensuite sur le retour. On le voit très bien et on l'entend aussi là. Les exilés eux-mêmes, finalement, intégraient cette forme de culpabilité.
Nous le verrons à la fin de notre conversation, j'imagine, comment ils sont revenus. Mais pour l'heure, ils sont en train d'arriver. Ils sont en petit nombre, nous disiez-vous, 3000, 4000, ce que vous considérez ?
Oui, c'est ça, une cohorte de quelques milliers, où les professions intellectuelles, journalistiques, universitaires, médicales sont surreprésentées. Il y a une sociologie, c'est vrai, de l'exil des Français aux États-Unis qui est plutôt une sociologie des élites.
Comment cette sociologie se définit-elle ? Parce que d'autres que les élites auraient pu avoir envie de fuir.
Ah oui, certainement. Enfin, avoir envie, c'était aussi souvent qu'ils étaient en danger. Il faut quand même dire les choses, ou bien parce qu'ils étaient juifs, ou bien parce qu'ils étaient considérés comme des intellectuels du Front populaire, ou bien des journalistes antifascistes de gauche, etc. Donc, c'était quand même un déchirement. On retrouve au vide. Mais Pourquoi est-ce que c'est sélectif ? Ben justement, parce que le départ de la France est quand même très compliqué.
Et en face, l'acceptation par les Américains est aussi assez sélective.
Tout à fait. Seuls pouvaient finalement parvenir sur les rivages américains des gens qui étaient inscrits dans des relais, des structures, des sociabilités, ou bien professionnelles, ou bien religieuses, par exemple le Jewish Labor Committee. Enfin, il y a tout un tas de réseaux transatlantiques.
Avec des listes qui sont constituées.
Avec des listes qui ont permis de faire venir des personnalités qui étaient considérées comme en danger. Et un des personnages, disons, de cette opération de sauvetage, qui est aujourd'hui connue, mais qui autrefois l'était assez peu, c'est Varian Fry.
Qui est mort dans l'obscurité, comme souvent ces héros de l'ombre.
Absolument. Il a une vie assez tragique, parce que c'est vrai qu'il a eu un rôle important dans les années 40, 41, 42 à Marseille.
Alors lequel ?
Disons que c'était quelqu'un qui a été missionné par une partie de la société civile américaine pour faire échapper de la nasse européenne quelques personnalités allemandes, germanophones, hommes politiques, syndicalistes, intellectuels, artistes, qui étaient menacés encore plus, puisque bien souvent ils étaient dans des camps d'internement en France. Et il a réussi à en faire sortir quelques centaines.
Ils ont connu en général des tribulations, leur chemin a été différent selon les personnalités. Et alors, nous allons introduire un personnage qui vous est cher, Emmanuel Loyer, puisque vous en avez donné, il y a 4 ou 5 ans, une magnifique biographie, je veux dire Lévi-Strauss. Écoutons-le interviewé par vous-même, Emmanuel Loyer, dans le cadre de La Fabrique de l'Histoire, de notre cher Emmanuel Laurentin, sur France Culture, le 11 février 2002. Écoutons Claude Lévi-Strauss.
J'avais été révoqué en 1940 et il s'agissait donc de savoir ce que je deviendrais. J'avais d'abord tenté sans succès de retourner au Brésil et puis grâce à des appuis divers que j'avais là-bas, j'ai reçu une invitation de la New School for Social Research à venir enseigner aux États-Unis. J'ai donc pu partir, non sans difficulté, au début 41, sur un bateau qui s'appelait le capitaine Paul Lemerle et qui avait été installé, si je puis dire, aménagé, si le mot a un sens, pour emmener quelques centaines de réfugiés qui étaient empilés là-dedans, dont je l'ai raconté, André Breton, avec qui je me suis lié pendant cette traversée. Ça a duré plusieurs semaines, la traversée, parce qu'il y a eu des difficultés, d'abord à la Martinique et puis pour moi à Porto Rico. Je suis arrivé au printemps 41 aux États-Unis. C'était d'ailleurs le début des vacances. Et je n'ai commencé à enseigner qu'à la rentrée.
Il faut dire que les Américains n'étaient pas tellement accueillants. Ils ne distinguaient pas les réfugiés politiques à l'époque et des immigrés économiques. On avait resserré sous Hoover, dans les années 20, l'accès. C'est l'époque où Gustave Cohen, qui est professeur d'histoire médiévale à la Sorbonne, écrit « Si Christophe Colomb avait dû se procurer autant de papiers, il aurait certainement renoncé à découvrir l'Amérique. »
Oui, non, c'est une citation amusante et qui dit bien aussi le sentiment de vraiment pénétrer dans un chat très très étroit. Il fallait à la fois avoir des appuis financiers, il fallait être en effet, ça s'appelait c'était une clause, si vous voulez, il fallait que vous puissiez être garanti de ne pas peser sur les finances américaines. Donc, éventuellement une offre d'emploi, votre profil était également regardé de très près.
Donc, Marc Bloch d'ailleurs qui avait songé à venir,
oui,
et qui commençait à finir dans la résistance, tragiquement. Marc Bloch n'était pas venu parce qu'il n'a pas pu venir avec ses fils.
Absolument, oui. Il y avait aussi toute une équation très compliquée administrative entre les autorisations de sortie de France et les affidavits. Plus il fallait aussi, évidemment, financer le trajet en bateau. C'est ce que raconte Lévi-Strauss, hein, parce que tous ces exilés arrivaient, évidemment, en bateau après un trajet très tortueux, parfois difficile, parfois où on devait... en bateau, mais aussi en partie à pied, hein, parfois passer par l'Espagne pour arriver à Lisbonne et là prendre le bateau. Ou au contraire, prendre un bateau deuxième filière de Marseille pour aller à New York en passant par la Martinique. C'est ce que dit Lévi-Strauss.
On comprend qu'il n'ait pas été très nombreux en somme et que ce soit les notoriétés qui étaient le plus volontiers accueillies.
Oui, alors c'était pas forcément les plus connus, mais c'était aussi, par exemple, Lévi-Strauss n'était pas connu. C'était un jeune ethnologue, mais les États-Unis et les institutions universitaires américaines pouvaient être intéressés par des profils comme ça de jeunes ethnologues pleins de promesses, disons. Donc c'était aussi, la promesse d'une fertilisation, la promesse d'une importation de ces jeunes de gens comme Lévi-Strauss qui auraient pu finalement s'insérer dans l'anthropologie américaine.
Il y avait des fondations, notamment la fondation Rockefeller, qui a aidé ces intellectuels à survivre.
Oui, tout à fait. Enfin, la fondation Rockefeller et l'institution dont il parle, la New School for Social Research, qui va donc employer finalement un certain nombre de ces universitaires à New York, dans une école où ils pourront faire cours en anglais d'abord, mais aussi en français à l'École libre des hautes études.
Vous donnez cette citation de Victor Serge. Ce fameux révolutionnaire anarchiste qui a une vie extraordinaire, écrivain aussi, et qui relate ce moment de la façon suivante. « Notre cohue de réfugiés comprend de grands intellectuels de toutes les classes qui ne sont plus rien, puisqu'ils se sont permis de dire la plupart doucement non à l'oppression totalitaire. Nous comptons tant de médecins, de psychologues, d'ingénieurs, de pédagogues, de poètes, de peintres, d'écrivains, de musiciens et d'hommes politiques » que nous pourrions insuffler l'âme à un grand pays. Il y a dans cette misère autant de capacité et de talent, capacité au sens du XIXe siècle, il y a dans cette misère autant de capacité et de talent qu'il y en avait à Paris au jour de sa grandeur. Et l'on ne voit que des hommes traqués, infiniment fatigués, à bout de forces nerveuses. Cours des miracles des révolutions, des démocraties et des intelligences vaincues. Nous nous disons parfois, si 5% de ces hommes abandonnés réussissent de l'autre côté de l'Atlantique à se refaire des âmes de combattants, ce sera magnifique. Fin de citation.
Oui, c'est très beau cette citation. Oui, ça dit bien aussi cette... on dit parfois Weimar en exil. Moi, j'ai titré ce livre Paris à New York, qui a cette idée aussi d'une partie finalement de la culture européenne qui va se réfugier aux États-Unis et qui, allant se réfugier, se déclasse aussi parfois. Enfin, l'exil peut être aller dans plusieurs directions, mais c'est aussi évidemment bien souvent pour un certain nombre d'entre eux, lorsqu'il n'y a pas de fondation Rockefeller, on se déplace et on se déclasse. Et c'est vrai que les Français... et par rapport aux Allemands, disons, vont cultiver cette nostalgie de la France beaucoup plus que les Allemands qui vont tenter, tous ces exilés germanophones qui vont tenter et qui vont bien souvent s'intégrer dans la société américaine.
Alors que la plupart des Français rentreront.
Absolument.
Il y a une sorte de contraste aussi entre les ténèbres du pays qu'on quitte et la lumière de celui que l'on trouve. Et à cet égard... Jean Renoir est explicite. Jean Renoir, vous allez retrouver le ton de la règle du jeu. Jean Renoir interviewé par Hélène Tournaire en 1960 et qui évoque la lumière de New York par comparaison avec le pays d'où il vient. On est le 31 décembre 1940.
Vous avez, je crois, quitté New York assez vite. Êtes-vous parti avec Saint-Exupéry ?
Non. Alors Saint-Exupéry est resté à New York où d'ailleurs l'attendait une réception absolument fantastique. Il nous a été arraché tout de suite. Heureusement, nous nous sommes revus de temps en temps grâce à un ami commun, le peintre Lameuthe, qui avait un grenier extraordinaire au-dessus d'un gratte-ciel dominant la ville. Un grenier adorable avec des meubles en bois blanc. Et là, il faisait griller des beefsteaks lui-même pour ses copains. Enfin, nous avons eu des réunions tout à fait charmantes chez Lameuthe. Mais Saint-Exupéry nous a été pris par une série de réceptions, de fêtes, etc. De sorte qu'à New York, nous l'avons très peu vu. Nous devions le voir d'une façon constante et heureusement intime, parce que c'était un être exquis et il eût été dommage de ne pas trouver moyen d'en profiter. Non, il est venu habiter chez moi plus tard, en Californie. Ah, j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que nous sommes arrivés à New York, donc venant de Lisbonne, donc venant de France. Enfin, nous étions encore moralement en France, nous étions encore dans les rues sombres la nuit, nous étions encore dans la nourriture restreinte, nous étions encore, enfin, dans toute l'atmosphère de l'occupation. Et nous sommes arrivés à New York le 31 du mois de décembre, c'est-à-dire le jour où tout New York est en folie. Et nous sommes arrivés dans une ville illuminée toute la nuit, avec les orchestres partout marchant à fond, avec des musiques dans les rues, avec des gens soufflant dans des petites trompettes, se lançant des confettis, se lançant tout ce qu'on peut se lancer à la figure, avec des faux nez, des faux chapeaux, enfin une sorte de... Ce jour de l'an new-yorkais, cette année-là, avait une espèce d'allure de carnaval joyeux, et surtout de la lumière et de la lumière. Alors vous savez, venant d'Europe, parce que même Lisbonne est une ville sombre comparée à un New York du jour de l'an, croyez-moi. Et toute cette venture, et les cinématographes, et les théâtres, et la joie, et les gens vous parlant dans la rue, vous bousculant, vraiment, c'était une impression insensée, nous en aurions pleuré. Nous venions vraiment de la nuit, et nous nous trouvions dans une lumière, peut-être un petit peu artificielle, mais même quand c'est artificiel, la lumière, c'est tout de même la lumière.
Nous retrouvons, me semble-t-il, Emmanuel Loyer ici, le grand Jean Renoir, celui qui se déguise en ours dans la règle du jeu.
Oui, avec cette voix si caractéristique, si débonnaire, et qui raconte là un peu un morceau de bravoure, en fait, du récit de l'exil, c'est-à-dire l'arrivée, le scénario fastueux de l'arrivée à New York, parce qu'on y arrive en bateau. Et donc, il faut quand même imaginer à la fois le soulagement, la joie, et puis, pour un homme de cinéma, le spectacle, certes, de la lumière, mais aussi de cette skyline new-yorkaise, qui, finalement, leur est à la fois... inconnu et connu, parce que c'est déjà un lieu cinématographique, New York. On l'a vu dans les films de l'entre-deux-guerres. Donc, et puis la Statue de la Liberté, qui évidemment constitue... Enfin, New York est déjà investi finalement de cet espoir en une vie meilleure que la ville a été déjà depuis plusieurs décennies avec des émigrations successives.
La Statue de la Liberté qui a été offerte par la France.
Tout à fait. Donc on renoue cette histoire franco-américaine. Et c'est vrai qu'il faut imaginer ces exilés... arrivant des couvre-feux de la France occupée, Renoir montre bien le soulagement, la joie et en même temps, à ce moment-là, l'exil commence vraiment.
C'est peut-être aussi le lieu de distinguer selon les catégories d'exilés. Je veux dire, les gens de cinéma comme Renoir, ce n'est pas la même chose toujours que les peintres qui se sont, si je vous lis bien, plus facilement intégrés que les écrivains.
Oui, alors c'est vrai que Renoir ne restera pas à New York, va assez logiquement à Los Angeles, c'est-à-dire Hollywood, où il y a d'autres, René Clair, Julien Duvivier.
Il restera d'ailleurs.
Tout à fait, ce qui est d'ailleurs étonnant et qui lui a été reproché, hein, le plus français des cinéastes qui, après la guerre, restera assez largement aux États-Unis. Mais c'est vrai que... Selon les professions, on s'intègre plus ou moins bien. Et il est vrai que les peintres, notamment toute la galaxie des peintres surréalistes, s'intègrent beaucoup mieux dans le champ artistique américain, on pourrait dire ça comme ça, que les écrivains qui sont évidemment liés par la langue.
Alors donnez-nous des noms.
Bah, du côté des peintres, vous avez... une palette des peintres des années 30, donc à la fois des surréalistes, des gens comme... Max Ernst, André Masson, Tanguy, Duchamp, Chagall est à New York aussi, Léger. Enfin, vous voyez, c'est quand même une part importante de la peinture des années de l'entre-deux-guerres. Et puis du côté des lettres, alors là, il y a des gens très différents, des gens très connus comme Jules Romain, André Mauroy.
Philippe Henriot, dans sa haine, on a déjà cité plusieurs.
Oui, c'est ça. Des journalistes, Pertinax.
Pertinax, André Géraud, qui était
voilà,
un grand...
qui était un grand journaliste.
Des années 30.
Des années 30.
Il a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Les Fossoyeurs, qui a été récemment emprunté par un journaliste sur un autre thème.
Tous ces... Alors, et puis il y a aussi André Breton, justement, qui était quand même une gloire de l'époque aussi.
Et puis il y a le cas de Saint-Exupéry, sur lequel il faut probablement s'attarder un instant.
Oui, alors Saint-Exupéry, lui, arrive assez connu et il va être quand même assez malheureux à New York, mais écrire Le Petit Prince en 1943 à New York.
C'est pas si mal. Il refuse absolument de parler anglais. Cet aspect, que je dirais langagier, du thème que nous traitons aujourd'hui, l'exil français à New York pendant la Seconde Guerre mondiale, n'est pas sans importance.
Tout à fait, parce que... L'apprentissage de l'anglais est une pierre de touche, finalement, de la volonté d'intégration ou pas à la société américaine. Alors, Saint-Ex refusait de parler anglais, tout comme André Breton, qui, disait-il, ne voulait pas polluer son français.
À propos d'André Breton et du surréalisme, je vais vous faire écouter un entretien avec Alain Bosquet, qui est extrait du Bon Plaisir de Louis Mison, sur France Culture, en avril 1992. Alain Bosquet était un... critique, un ami des lettres, originaire d'ailleurs, c'est le moment de le signaler, est d'Odessa. Bosquet est là, il raconte ses relations en particulier avec votre cher André Breton, Emmanuel Loyer.
J'ai débarqué aux États-Unis et j'ai connu successivement en quelques jours Maurice Maeterlinck, Jules Romain, André Mauroy, André Breton, Fernand Léger, Marc Chagall, Salvador Dali, Matta, l'âme, tout ça vivait ensemble, pratiquement.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Rencontre, visage, silhouette, gens célèbres. New York, printemps 1942, première rencontre avec André Breton. C'est vraiment le pape sur un continent qu'il ne comprend pas et qu'il ne veut pas comprendre. André Breton refusait d'apprendre l'anglais. Il connaissait trois mots, mais vraiment trois, pas quatre. Il était très dur, n'est-ce pas? C'était un homme systématique et c'était un homme pour qui il n'y avait qu'une seule chose, c'est la victoire... du surréalisme sur tout ce qui est autour. Et bon, il y a eu entre nous des étincelles et très vite une sorte de hargne. Puis de nouveau de l'amitié, ça a duré jusqu'à sa mort. Je lui dis, mais enfin bon, où êtes-vous? Et il me dit, bien entendu, il faut combattre le nazisme, mais il faut aussi combattre le capitalisme. Je dis, mais alors, c'est pas réaliste, c'est l'un ou l'autre. C'est la démocratie. Il me dit, cette démocratie est pourrie. Bon, et le nazisme, c'est affreux. Je dis, mais alors où? Il me dit, ça m'est complètement égal. Ce qui compte, c'est les images. Nous nous promenions, nous nous sommes promenés très souvent, peut-être 15 fois, 20 fois, dans Broadway, bras dessus, parce qu'il aimait qu'on le prenne comme ça, si j'ose dire, physiquement, par le bras, par le coude. Et on allait de merveille en merveille dans New York, puisque les New-Yorkais, finalement, ne sont pas conscients de la beauté de la ville. Il n'y a que les Européens qui voient combien c'est beau. Pour les New-Yorkais, c'est pratique ou c'est pas pratique. Mais la question de beau, de vertigineux, ne se posait pas. Et on pouvait, Breton, avec sa belle crinière, encore à peine grise, pouvait lever la tête vers le ciel et voir une belle corniche avec des mosaïques à 25 étages, quelque part dans les airs. Et comme il se penchait comme ça, et que les passants vont vite, on s'attroupait, parce que quoi, on est, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un est en train de se suicider de là-haut? Et Breton disait non, non, il disait ça en français, parce que pas l'anglais, mais non, non, c'est très beau. Il me dit, qu'est-ce qui est beau? Alors foutez-nous la paix, enfin, pourquoi vous nous faites nous arrêter, que tout le monde, la foule suit. Et alors, tout était comme ça, et puis, bien entendu, on déviait toujours vers le surréalisme et vers, bien entendu, le trotskisme dans lequel il croyait. Si j'ai appris quelque chose de Breton, c'est qu'en art, il faut être impitoyable.
Vous retrouvez votre André Breton ?
Tout à fait, de merveille en merveille. C'est vrai que Breton à New York, c'est un peu comme un signe un peu qui est là, ou comme un pingouin, enfin
albatros,
un albatros, mais qui tout d'un coup ne peut plus voler. C'est un moment de très grande difficulté pour lui, de mélancolie. D'abord, il a très peu d'argent. Il refuse de parler anglais, comme je le disais. Il n'envisage pas un exil à long terme. Parce qu'il faut bien comprendre que tous ces gens arrivent, ne savent pas combien de temps va durer l'exil, par définition.
Nous le savons, mais pas eux.
Voilà. Et il y a cette tristesse de l'exil, ce qui n'enlève pas quand même son activité légendaire. Donc tout de suite, il va recréer tout un arsenal de revues, d'éditions, etc. Notamment, surtout, la revue Triple V, qui est une revue un peu culte aujourd'hui, mais qui était quelque chose de quand même relativement... C'est une petite revue, si vous voulez.
Qui n'a connu que deux ou trois numéros ?
Oui, quelques numéros, mais avec des grands noms, hein, notamment Lévi-Strauss, Césaire. Le nom de Césaire est connu grâce à Triple V, etc. Bon. Mais en même temps, André Breton essaie de restaurer aussi cette vie de bohème qui était la vie surréaliste à Paris, et est un grand découvreur de New York, qu'il parcourt donc bras dessus, bras dessous, comme il le dit, avec Alain Bosquet, mais aussi avec Lévi-Strauss. Et c'est vrai que, bien qu'il n'ait écrit aucune page sur New York, on sait que les surréalistes ont été à la découverte, ont vu véritablement la beauté de New York, ont vu une ville surréaliste pleine de juxtapositions étranges entre la ville du tout moderne et puis aussi ce qu'était alors New York, c'est-à-dire un conservatoire aussi de toutes ces cultures européennes débarquées depuis plusieurs décennies. Il y avait donc les surréalistes allaient au théâtre yiddish, allaient à l'opéra chinois, ils adoraient découvrir les restaurants exotiques, ils ont continué à chiner, et on sait très bien comment Lévi-Strauss l'a raconté à plusieurs reprises. Avec les surréalistes, il a découvert véritablement, il a pu acheter même de l'art amérindien, cet art notamment de Colombie-Britannique que André Breton aimait beaucoup. Ils allaient aussi découvrir cet art amérindien au Muséum d'Histoire Naturelle.
Alors, ils étaient intégrés ou pas ? Est-ce qu'ils reconstituaient Paris avec un mélange de nostalgie et de mémoire blessée ? Ou bien est-ce qu'ils ont cherché vraiment à s'enrichir de ce qu'était cette civilisation américaine ?
Disons qu'ils n'ont pas réussi à reconstituer véritablement ce qu'a été la centralité du surréalisme, en tout cas du côté des poètes. Du côté de la peinture, c'est très différent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais du côté des poètes et des écrivains, ça a été plus difficile, et ils avaient plus de rapports finalement avec l'Amérique du Sud et avec un certain nombre d'exilés français.
Kaiwa et d'autres.
Voilà, donc c'est vrai qu'il faut aussi comprendre que New York, c'est aussi finalement, et ça va être son rôle historique dans cette histoire, c'est aussi la capitale des lettres françaises pendant la guerre, avec des maisons d'édition.
Par exemple, les éditions de la Maison Française qui éditent beaucoup d'œuvres, de 250 livres en français.
Voilà, exactement. Donc les éditions de la Maison Française, d'autres, les éditions Brentanos, où il va y avoir des collections françaises. Et c'est un lieu où on va publier un certain nombre de manuscrits, pas seulement des exilés, mais aussi de gens qui viennent d'Amérique du Sud, et aussi parfois des manuscrits qui arrivent de la France occupée. Par exemple, Le silence de la mer de Vercors va être publié à New York, sous un autre titre. J'ai retrouvé l'édition originale qui s'appelle « Les silences de la mer ».
Donc, vous voyez, j'avais vu ça, j'ai cru que c'était une faute de frappe.
Absolument pas. Je ne peux pas expliquer.
J'aurais dû ne pas penser cela un instant.
Vous auriez pu. Mais je pense que New York est véritablement un centre de l'édition en français, et la capitale des lettres françaises, et finalement cherche surtout à véritablement incarné la survie, la persistance de la France et de la littérature française dans le monde, alors même que la France est occupée.
Alors ça dépasse la question des lettres et des arts, ça concerne la politique en général. Il faut que nous y venions maintenant. Emmanuel Loyer, dans cette... au moment de restituer ce New York des Français entre 1940 et 1945, je vous propose ce monde-là vu depuis Londres, ce qui, je crois, pose bien les questions, la question des contradictions et des relations difficiles, souvent, avec le gaullisme. C'est une interview de Stéphane Hessel que vous aviez recueillie sur France Culture en 2002. Stéphane Hessel, ce grand résistant, qui est aussi le fils de Jules dans Jules et Jim de Truffaut, mais ça n'a pas de rapport avec notre sujet. Stéphane Hessel, qui était à Londres à ce moment-là, nous restitue à votre demande ce qu'ont été les sentiments des gaullistes là-bas à l'égard des émigrés dont nous parlons ce matin à New York.
La relation entre nous, les Français de Londres, qui étions quand même peu à peu fondamentalement gaullistes. Il y en avait bien qui ne l'étaient pas. Il y avait le journal France, il y avait Raymond Aron. Mais enfin, en gros, la population, et surtout les combattants, étaient naturellement derrière De Gaulle. Nous avions le sentiment qu'il n'en allait pas du tout de même de l'autre côté de l'Atlantique. Non seulement nous savions que les États-Unis maintenaient des liens et une ambassade importante auprès du maréchal Pétain, ce qui nous paraissait abominable. Mais nous savions aussi que les Français qui se trouvaient aux États-Unis n'étaient pas tous des combattants contre le fascisme, étaient pour certains d'entre eux des Français qui trouvaient qu'après tout, le maréchal Pétain, c'était pas si mal. Ils étaient généralement anti-allemands, comme l'était d'ailleurs la majorité des Américains, mais ils n'étaient pas forcément très engagés. Nous les observions, nous, de Londres, avec beaucoup de sens critique à l'égard d'hommes comme Alexis Léger, comme Chautemps et d'autres. Nous avions le sentiment que ces gens-là étaient des traîtres à notre cause, qui était la cause du gaullisme. Ceux qui partageaient notre sentiment que De Gaulle était le dirigeant pour la France, ils existaient à New York, à l'école des hautes études, livre des hautes études, la New School of Social Research. Toutes ces équipes, il y avait là des gens maritains, par exemple, qui étaient très engagés du côté du général de Gaulle. D'autres l'étaient moins, étaient plus attentistes, mais au fur et à mesure que la guerre évoluait, il est évident qu'on avait de plus en plus de voix aux États-Unis qui étaient des voix proches du général de Gaulle.
Les indignations à l'époque de Stéphane Hessel n'étaient pas encore celles qu'il a déployées longtemps après avec son fameux petit livre qui a eu un succès universel qui s'appelait « Indignez-vous » en 2011. Mais revenons à notre période, si vous le voulez bien, Emmanuel Loyer. C'est ce que nous dit Stéphane Hessel.
Ce qu'il nous dit, c'est en effet l'image assez négative qu'avait cette communauté française exilée aux États-Unis du point de vue de Londres. Puisque, en effet, aux États-Unis, le gaullisme a toujours été un peu problématique, au sens où il y avait une communauté française déjà installée depuis longtemps, qui finalement suivait la politique américaine vis-à-vis de la France. Et rappelons que, donc, comme le dit Stéphane Hessel, les États-Unis restent fidèles, si on peut dire, en tout cas entretiennent des liens diplomatiques avec le régime de Pétain jusqu'en novembre 1942.
L'amiral Leahy, qui est un grand ami de Roosevelt, en effet, il demeure et envoie des informations qui ne sont pas faites pour dresser Roosevelt contre Pétain.
Voilà, donc un certain nombre d'institutions françaises qui ne sont pas liées à l'exil, mais à l'émigration, il y avait quand même cette communauté française qui était là, comme par exemple les Alliances françaises ou bien la Chambre de commerce, assez logiquement vont suivre finalement la politique officielle du pays dans lequel ils sont.
Et l'ambassadeur de Vichy, Henri Haye, Gaston Henri Haye, qui est très influent.
Tout à fait. Donc là, il n'y a rien de très étonnant. C'est vrai que les États-Unis vont se caractériser comme... disons par la présence d'un exil aussi antigaulliste, et un antigaullisme qui peut avoir même plusieurs visages, y compris aussi un antigaullisme de gauche parfois.
Contradictoire en somme.
Oui.
De Gaulle rouge ou de Gaulle excessivement dictatorial potentiel?
Ah, tout à fait. C'est-à-dire que je pense que la raison essentielle, outre les méandres aussi de la politique rooseveltienne qui de ce point de vue, a toujours absolument cherché jusqu'à la fin, jusqu'en 1944, à trouver des alternatives à De Gaulle. Parce que De Gaulle n'est pas traductible, d'une certaine manière, dans l'idiome politique américain.
Joliment dit.
Il est too much, il est trop autoritaire, ou alors il est trop, parfois, rouge, ou vu comme étant trop lié au Front populaire, pour les conservateurs aussi de l'Amérique. Donc c'est vrai que les exilés sont dans un pays qui, disons, n'acceptera jamais le général. Enfin, attendra octobre 44 quand même pour reconnaître le Comité national comme gouvernement provisoire.
Et plusieurs de ces exilés, c'est un élément de leurs querelles entre eux qui caractérise généralement les petits groupes d'exilés. Plusieurs d'entre eux vont pousser contre De Gaulle. Et c'est là qu'il faut faire une place, évidemment, à Alexis Léger, c'est-à-dire Saint-Jean-Perse, le poète. Alexis Léger, qui avait été secrétaire général du Quai d'Orsay avant la guerre, dont la pensée, au fond, s'est arrêtée à ce moment-là et qui va jouer un rôle, De Gaulle en tout cas en a été persuadé, un rôle très, très marqué auprès de Roosevelt pour le dresser contre le général.
Oui, c'est vrai qu'il apparaît un peu, il apparaît souvent comme une sorte de mauvais génie du gaullisme aux États-Unis, parce que c'était quelqu'un qui connaissait aussi, qui était très intégré dans la, je dirais, dans la haute société des WASP à Washington.
Sa et femme,
qui,
en anglais.
Voilà, par sa femme. Et donc, il avait l'oreille d'un certain nombre de personnalités importantes. Et c'est vrai que vous dites son cerveau s'est arrêté. C'est peut-être pas exactement comme ça. Mais oui, il y a une sorte de pétrification.
J'ai pas dit cerveau, j'ai dit sa vision du monde.
Sa vision du monde, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est aussi un des phénomènes de l'exil. C'est comme si aussi sa vision du monde s'était arrêtée en 1940 et lui aurait voulu, d'une certaine manière, renouer avec l'avant 40, comme si il ne s'était pas passé des choses absolument extraordinaires et terrifiantes dans les années de guerre, donc qui nécessitait aussi un changement institutionnel. Et bon, donc lui de Washington en effet a joué un rôle très négatif.
Je lui ai rendu visite à Washington en 1966 et j'avais été très frappé par ce côté un peu figé. Et quoi qu'il en soit, quand De Gaulle est venu aux États-Unis, il a toujours, et que Saint-Jean-Perse, Alexis Léger, habitait à Washington, il a toujours rayé de la liste des invités potentiels de l'ambassade de France le nom de celui-ci.
Oui, la vengeance est un plat qui se mange froid.
Vengeance mondaine.
Vengeance mondaine, mais vengeance quand même.
Et on peut signaler que le poète Saint-Jean-Perse a écrit, à ce moment-là, c'est un nouveau recueil, il s'est remis à la poésie, un recueil qui s'appelle Exil. Vous vous rappelez, syntaxe de l'éclair, au pur langage de l'exil, lointaine et l'autre rive, où le message s'illumine, lointaine et l'autre rive. On pourrait presque prendre cela comme une épigraphe pour le regard que jetaient ces exilés vers la France.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai aussi que Alexis Léger est dans une solidarité atlantique. Il était lui-même proche du monde caraïbe. Donc, je pense que c'est aussi une des choses qui explique son anti-gaullisme.
Il y avait quand même des gaullistes. Essel évoque l'École libre des hautes études de New York, Emmanuel Loyer.
Oui. Alors, l'École libre des hautes études a été vue, bien qu'étant une institution scientifique et donc indépendante, savante, a été vue et a été en effet un des lieux d'expression de la mobilisation intellectuelle favorable au gaullisme, avec des gens comme Jacques Maritain qui l'a présidé à partir de 1942-1943, Henri Faucillon, critique d'art, historien d'art Henri Faucillon, justement Claude Lévi-Strauss qui en faisait partie. Enfin, toute une série, Gustave Cohen que vous citiez aussi au début de l'émission, Boris Mirkin-Guetzevich, etc., etc.
C'était le beau-père de
Stéphane Hessel, tout à fait. Donc, l'École libre des hautes études apparaît vraiment comme, en effet, une cellule d'universitaires proche du gaullisme et de René Cassin. Et du reste, De Gaulle remerciera l'École libre des hautes études dans un de ses discours comme ayant été un des lieux de mobilisation où la foi n'a pas faibli.
Un autre aspect des contributions de ces Français exilés au combat contre le nazisme, ce sont les émissions de radio auxquelles il participe. Je crois qu'il faut s'y attarder un instant, en particulier Voice of America, parce qu'on retrouve votre cher Lévi-Strauss qui y contribue. Écoutez donc la manière dont il raconte cette expérience. C'est encore vous, quelle richesse, qu'il avait interviewé en 2002.
This is New York. L'Amérique en guerre vous parle. Chaque jour, à la même heure, nous vous apportons les informations que votre censure vous cache. et dont l'Allemagne cherche à tout prix à vous priver. En ce moment même, vous nous entendez peut-être mal. L'ennemi, une fois de plus, est peut-être en train de brouiller les ondes, de faire tout son possible pour cacher la vérité. Mais nous ne craignons pas d'être brouillés. Nous savons que tôt ou tard, la vérité se fait jour, que Berlin et ses auxiliaires s'acharnent ou non à essayer de couvrir la voie de l'Amérique, les Français l'entendront quand même.
Car chaque fois que nos amis français voient passer un train de blessés allemands, ils savent que Stalingrad tient toujours.
Car chaque fois que nos amis français voient passer des avions britanniques et américains, ils savent que l'offensive aérienne alliée continue.
Car chaque fois que Laval lance un appel inutile en faveur de l'Allemagne, nos amis de France savent qu'ils ont enregistré une nouvelle victoire sur Vichy et sur Berlin.
La voix de l'Amérique trouve chaque jour son écho et sa confirmation dans la réalité.
Ces émissions étaient en dialoguées, en somme, et ont passé d'une voix à une autre, soit pour faire les annonces, soit pour donner le texte d'un article ou d'un discours, pour introduire, je pense, une certaine variété, et aussi probablement pour donner la possibilité, une plus grande possibilité de passer à travers le brouillage des émissions qui étaient constants. Il paraît que ma voix perçait mieux le brouillage que d'autres. Et donc, quand on tenait beaucoup à ce que quelque chose soit entendu, et bien entendu les discours du président des États-Unis s'amenaient au premier rang, alors on me les confiait pour les interpréter.
Lévi-Strauss à la radio, au micro. Il y avait aussi André Breton qui collaborait, qui refusait tout texte où Dieu apparaissait.
Oui, il l'a fait aussi parce que il faut dire les exilés, c'était une manière de participer à la résistance à distance, je dirais, à cette guerre des ondes hein, dont vous savez bien Jean-Noël Jeannet à quel point elle a été décisive dans la Seconde Guerre mondiale. C'était aussi une manière de gagner un petit peu d'argent et c'est vrai que Voice of America est devenue une pièce importante dans cette guerre des ondes avec 27 langues, dont le français. C'était une sorte de ruche qui a utilisé justement les exilés pour pouvoir parler dans leur langue aux pays concernés. Donc pour les Français, le service était dirigé par Pierre Lazareff, une autre personnalité.
Grand nom, qui est ensuite voilà. Qui est le patron de France Soir, un grand homme de presse de la 4e République et ensuite.
Tout à fait. Et parmi ceux qui étaient quand même très impliqués, il y avait aussi Denis de Rougemont, qui est un Suisse. Et qui était quelqu'un d'important hein, dans cette communauté.
Et qui dirige la réflexion vers l'idée qu'il faut faire les États-Unis d'Europe. Ce sera son
voilà, directrice
qui gouvernera sa vie.
Tout à fait. Et c'est vrai que Voice of America a réussi à... Enfin, il parle d'émissions dialoguées parce que, à travers cette radio de propagande qui devait finalement expliquer hein, les buts de guerre, il y a aussi des inventions formelles, dont ces émissions dialoguées. Tout cela étant d'ailleurs dirigé par John Houseman, qui était un nom très connu à l'époque, puisque c'est lui qui, avec Orson Welles, avait fait la célèbre émission de radio qui a interloqué et catastrophé toute l'Amérique sur la guerre des extraterrestres.
Il a fait tellement peur à l'opinion que certains...
La guerre des mondes. Hein.
La guerre des mondes s'était précipitée sur les routes en croyant que c'était vrai.
Absolument.
Magnifique canular radiophonique. Mais revenons à votre époque.
Voice of America, donc, c'est une manière pour les exilés aussi de... Bien sûr, maintenir le lien avec le pays et de participer à cette guerre radiophonique.
Il faut que nous finissions sur la question du retour. C'est toujours une incertitude de savoir comment on rentre. Et d'abord, comme vous le disiez, quand reviendra-t-on ? Les généraux soviétiques qui avaient gagné la France après la révolution 1917 n'avaient pas pratiquement défait leurs valises.
Oui, tout à fait. Non, là, nos réfugiés français, il y a quelque chose de qui les spécifie quand même, c'est leur retour quasiment massif en France.
Mais alors, dans une situation souvent difficile, je ne peux pas m'empêcher de citer Chateaubriand, Mémoire d'outre-tombe, à propos des émigrés de 1814, qui n'avaient rien appris, commencé, rien oublié. Il disait, dans les rues de Paris, on voyait des émigrés caduques avec des airs et des habits d'autrefois, hommes les plus respectables, mais aussi étrangers parmi la foule moderne que l'étaient les capitaines républicains parmi les soldats de Napoléon. C'est un peu le regard que Jean-Paul Sartre a jeté sur ces émigrés de retour.
Absolument. Non, c'est une citation magnifique qui montre bien cette figure du revenant, finalement. Quasiment de l'obsolescence hein, de ces gens qui reviennent et qui ne comprennent pas leur présent. Hein. Ils reviennent d'un autre temps et ils sont disqualifiés. Bon, en plus, les exilés français, en raison de ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire de cette tradition stigmatisante, finalement. Encore une fois, la France aime bien accueillir des exilés, mais voit mal ses propres exilés, bien qu'elle en ait eu. Eh bien, ces exilés sont ils sont accueillis comme des fuyards, des gens qui ont passé la guerre bien au chaud aux États-Unis. Ils vont affronter, c'est vrai, une situation assez difficile. Et ils sont vus aussi comme des agents des États-Unis, notamment dans les milieux intellectuels, si vous voulez, après 45, qui est très structuré par le Parti communiste, la gauche antifasciste. Il ne fait pas bon revenir des États-Unis.
Cela est exprimé avec éclat par Jean-Paul Sartre, qui rend visite aux États-Unis à ce moment-là. Il est interrogé par des journalistes et il écrit « Pas un qui n'ait manqué de me demander si les exilés seraient méprisés par leurs compatriotes à leur arrivée. » Et Sartre répond « C'est bien pis, ils ont été oubliés. »
Ça, c'est fatal. Et surtout pour un intellectuel, évidemment, ou pour un artiste, être oublié, c'est pire que la mort. Oui, avec cette phrase, Sartre quasiment prend acte d'une sorte de changement de génération. C'est aussi une manière de lui-même de finalement se mettre au centre. L'existentialisme est désormais au programme.
Et ce sera un chagrin pour Breton, bien sûr, qui est au centre du surréalisme, mais qui n'empêche pas l'arrivée du structuralisme.
Alors, le structuralisme qui est né, si on veut, pendant la guerre, de la rencontre de Lévi-Strauss
avec Jacobson.
Jacobson, dans ce contexte qui a été le contexte aussi cosmopolite de l'institution de la New School, mais qui, en fait, ne deviendra véritablement public et de plus en plus connu qu'une quinzaine d'années plus tard. Lorsque Lévi-Strauss ne revient qu'en 1947, et à ce moment-là, sur le plan idéologique, politique, c'est vrai que c'est l'existentialisme qui règne.
On a le sentiment que les scientifiques qui sont de retour sont mieux traités par la France quand ils les accueillent, les Jean Perrin, les Pierre Auger.
Oui, disons qu'un certain nombre d'entre eux vont aussi pouvoir capitaliser aussi sur l'expérience des États-Unis, parce que des gens comme Pierre Auger, par exemple, ont en partie transformé l'université, les programmes de recherche.
Il était directeur de l'enseignement supérieur, et voilà, s'il avait c'est ça. Duré, beaucoup de choses auraient changé.
Oui, donc il y a aussi un effet de cet exil aux États-Unis, c'est l'exportation d'un certain nombre de choses, notamment par exemple dans l'histoire de l'université ou des programmes de recherche, sur le plan politique aussi. C'est un exil restreint, mais qui a quand même permis un certain nombre de médiations et de nouveautés dans l'après-guerre, ou du moins qui a un peu hybridé l'après 45.
Mais quand il rentre, il croise en quelque sorte les savants allemands qui sont récupérés par les Américains.
Oui, alors dans tout ce champ de recherche, que ce soit les sciences dures ou les sciences humaines, ce qui a été aussi très important, on le sait maintenant, c'est les relations qui ont été nouées avec les fondations américaines et qui ont permis aussi parfois de financer un certain nombre d'institutions françaises, comme par exemple la 6e section de l'École libre des hautes études.
Sabine Janssen a consacré un livre intéressant à ce sujet.
Oui, c'est ça. Ou d'autres... disons que l'histoire des sciences sociales européennes a été ensuite, en partie, pas complètement, mais a été... des liens ont perduré, qui étaient les effets de ces années de guerre.
Emmanuel Loyer, merci pour ce beau regard jeté sur ce moment de l'histoire de France, la France exilée. Nous n'avons pas, chemin faisant, multiplié les comparaisons avec les exilés d'aujourd'hui, mais je pense que chacun de nos auditeurs, chacune de nos auditrices aura rempli les blancs. Alors, je rappelle le titre de votre livre sur lequel nous avons fondé cette émission, un livre de 2005, republié en poche en 2007, qui s'appelait « Paris à New York ». Intellectuels et artistes français en exil, 1940-1947. Et puis votre opus magnum consacré à Claude Lévi-Strauss, une biographie qui a été saluée, honorée, louée de toutes parts. Et puis je voudrais également signaler que tout récemment, vous avez publié un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle, avec un titre choisi, « L'impitoyable aujourd'hui ». Je me suis dit qu'on aurait presque pu en faire un sous-titre de cette émission. « L'impitoyable aujourd'hui ». Et où on retrouve, c'est une sorte de réflexion d'une historienne sur ce que la littérature, où vous vous promenez avec une dilection spécifique, ce que la littérature peut apprendre à l'histoire. Ce dialogue-là rencontre naturellement, par moments, la question de l'exil.
Oui, parce que parmi les écrivains que j'aime beaucoup, j'ai choisi par exemple Joseph Roth, qui est écrivain autrichien exilé à Paris, lui. Et je rencontre aussi Hannah Arendt ou Walter Benjamin. Donc c'est vrai que ça nous ramène à cet exil européen de l'entre-deux-guerres, sachant que le chemin de Roth et Benjamin s'est arrêté en France. Hannah Arendt, elle, a pu aller aux États-Unis.
J'invite nos auditeurs, nos auditrices à faire cette promenade avec vous. L'impitoyable aujourd'hui, votre livre paru chez Flammarion en 2022. Vous pourrez trouver une bibliographie complète. Elle n'est pas très riche à l'origine, mais elle a été plutôt enrichie ensuite, n'est-ce pas, Emmanuel Loyer, cette bibliographie sur les Français exilés aux États-Unis entre 40 et 45.
Oui, tous les phénomènes d'exil depuis deux décennies ont suscité l'intérêt nouveau des historiens français.
Fouetté par l'actualité.
Sans doute.
Et vous pourrez bien sûr écouter, réécouter et podcaster cette émission.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by.
Et maintenant, je vous propose derrière notre générique d'entendre la musique, une musique extraite célébrissime du film Casablanca de Michael Curtis, qui était sorti en 1942, qui est une forme aussi de nostalgie du pays perdu, provisoirement du pays lointain.
That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die.
C'était donc Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, comme chaque semaine, avec à la prise de son Yann Fressy, Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel, Clary Monac.
Jealousy and hate.
woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.